Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Iseut Sicard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est une nouvelle série qui s'ouvre aujourd'hui et nous allons la consacrer au chômage, ce fléau qui semble enraciné dans nos sociétés modernes. Depuis le début des années 80 en France, le taux de chômage n'est plus jamais retombé sous la barre des 7%, un chiffre qui peine toutefois à rendre compte de la réalité quotidienne de tous les exclus du marché de l'emploi. C'est cette réalité que l'on s'attachera à dépeindre demain avec Daniel Linhart et Manuela Rupnel-Fuentes. Jeudi, on parlera de l'utopie de l'emploi pour tous. Mais d'abord, c'est l'invention du chômage, en rupture avec l'oisiveté et le vagabondage qui va nous intéresser. Comment ce concept a-t-il été pensé historiquement? Et comment s'est-il construit en tant que catégorie ouvrant la voie à des droits? C'est la question qui va nous entraîner de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer les grandes étapes de la reconnaissance du chômage en France en compagnie de Bénédicte Reynaud, directrice de recherche au CNRS, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et co-auteure de l'invention du chômage aux presses universitaires de France, en compagnie également de Carole Touche-Sirer, co-socio-économiste au Conservatoire national des arts et métiers et co-auteure de L'État face aux chômeurs, l'indemnisation du chômage de 1884 à nos jours, paru aux éditions Flammarion. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présenté par Arjuna Andrade. Bénédicte Reynaud et Carole Touche-Girard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'une nouvelle d'Émile Zola intitulée « Le chômage ». Le patron vient tout juste d'annoncer aux ouvriers que, faute de commandes, l'atelier va devoir fermer.
Quand le patron les quitte et qu'il le voit s'en aller, voûté en 8 jours, écrasé peut-être par un désastre plus grand encore qu'il ne l'avoue, ils se retirent un à un, étouffant dans la salle, la gorge serrée, le froid au cœur, comme s'ils sortaient de la chambre d'un mort. Le mort, c'est le travail. C'est la grande machine muette dont le squelette est sinistre dans l'ombre. L'ouvrier est dehors, dans la rue, sur le pavé. Il a battu les trottoirs pendant 8 jours sans pouvoir trouver du travail. Il est allé de porte en porte, offrant ses bras, offrant ses mains, s'offrant tout entier à n'importe quelle besogne, à la plus rebutante, à la plus dure, à la plus mortelle. Toutes les portes se sont refermées. Alors l'ouvrier a offert de travailler à moitié prix. Les portes ne se sont pas rouvertes. Il travaillerait pour rien qu'on ne pourrait le garder. C'est le chômage, le terrible chômage qui sonne le glas des mansardes. La panique a arrêté toutes les industries. Et l'argent lâche s'est caché.
Voilà, texte lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, extrait des Nouveaux Contes à Ninon, paru en 1893. Bénédicte Reynaud, on peut dire que c'est Zola qui fait entrer la figure moderne du chômeur dans la littérature.
Oui, dans la littérature, Zola ouvre la question sociale par laquelle le chômage est pensé comme une suspension de travail, mais une suspension temporaire de travail dans l'établissement.
Ce texte est en tout cas emblématique des crises sociales, économiques qui émergent à la fin du 19e siècle, Carole Touche-Girard.
Oui, tout à fait. Et l'extrait que vous avez passé montre bien quel est l'effet de ces périodes de chômage vécues comme des ruptures dramatiques sur le plan personnel et d'autant plus dramatiques quand, bien évidemment, aucun fonds de secours aux chômeurs n'a été pensé pour adoucir la peine.
Le terme de chômage va servir à distinguer les salariés qui ont perdu leur emploi des autres pauvres, Bénédicte Reynaud. Mais alors, d'où vient ce terme de chômage pour commencer?
Alors, chômer, ça vient du latin caomare, se reposer pendant la chaleur. Donc c'est a priori quelque chose d'agréable, mais on s'éloigne un peu de l'étymologie et...
Oui, au départ, ce sont les jours chômés, ce sont des jours de fête, ou selon l'acception religieuse du terme, c'est le jour où on honore les saints.
Tout à fait. Il y avait, à cet égard, au 19e et dans la plupart des pays d'Europe, une pratique qui s'appelait la Saint-Lundi, qui consistait à ne pas travailler... Bon, il y avait le repos hebdomadaire du dimanche et à ne pas travailler le lundi pour passer la journée avec ses amis au cabaret ou dans les jardins.
Et on va donc passer de cette acception religieuse ou de ce sens de la fête à une acception séculière et donc pour distinguer les salariés qui ont perdu leur emploi, donc de la masse des pauvres. C'est cela, Bénédicte Reynaud ?
Oui, tout à fait. Donc le chômage, c'est... D'ailleurs, il faut se demander pourquoi on dénombre le chômage. Et il y a deux grandes raisons. C'est d'abord la question sociale. Il faut que l'État intervienne pour venir en aide au chômage, aux chômeurs. Et secondement, il y a une fièvre classificatoire en Europe, à la fin du 19e, sur laquelle on pourra revenir.
On va y revenir, en effet, mais d'abord, Carole Touche-Dirère, ce sont d'abord les syndicats qui vont se charger des indemnités de chômage, dans un premier temps, avant l'État, et cela par le biais de ces caisses de secours.
Oui, tout à fait. La fièvre classificatoire, pour reprendre votre expression, à la fin du 19e siècle, finalement, ne fait que compter les chômeurs un peu sur la base du travail classificatoire que les caisses syndicales elles-mêmes avaient mis en place pour venir en aide aux demandeurs d'emploi en situation de privation involontaire d'emploi. Donc il y avait les caisses syndicales avaient plusieurs sections, si je puis dire, une section pour venir en soutien des grévistes, une section pour favoriser le placement et délivrer des secours de route, et puis une section, la dernière, qui a été créée par elle-même pour secourir le chômeur involontaire. Et elle-même, avant même que l'État ne mette son nez dans cette affaire, se livre à un travail assez précis, assez méticuleux de classification des demandeurs d'emploi, des chômeurs, il n'y a pas de demandeurs d'emploi à l'époque, pour ne pas mélanger l'argent dans les caisses et bien isoler ce qui relève du secours de grève, de ce qui relève du secours pour chômage involontaire lié à l'état du marché du travail.
Et la classification va jouer un rôle essentiel. Et là-dessus, l'année 1891 doit peut-être être relevée. Parce que c'est à ce moment-là, Bénédicte Reynaud, qu'on va se rendre compte que finalement qu'il manque une catégorie spécifique dédiée aux chômeurs.
Oui, tout à fait. La particularité en 1891, c'est qu'il y a un recensement. Les recensements en France sont décennaux. Quinquennal, le recensement est quinquennal, pardon. Et donc en 91, le statisticien se trouve devant un problème, c'est la population non classée qui possède la propriété de nets ni actives ni inactives. Il s'agit en particulier des gens qui sont sans place et qui sont, je cite, d'après le statisticien, des saltimbanques, vagabonds, bohémiens et filles publiques.
Et donc les chômeurs sont associés, disons noyés peut-être dans cette catégorie. Avant cela, l'État avait essayé déjà de favoriser l'essor d'une assurance chômage à travers la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui reconnaissait les syndicats professionnels. On voulait donc favoriser cela à travers les syndicats, mais les effets à ce moment-là avaient été encore assez limités, Bénédicte Reynaud.
Tout à fait. Il faut attendre en fait le recensement de 1896 pour que soient comptés enfin les chômeurs comme tels. Et le chômage apparaît donc à travers le recensement comme une suspension temporaire de travail dans l'établissement. Et à cet égard, c'est tout à fait spécifique à la France, un petit peu spécifique à l'Allemagne, mais c'est important de le noter.
Carole Touche-Dirère.
Oui, juste la loi Waldeck-Rousseau, c'est même une loi qui vise à, d'une certaine façon, déléguer aux organisations syndicales une partie de la question sociale qui traverse la période. Et elle a ici aussi été analysée comme une tentative d'instrumentaliser le syndicalisme de l'époque, qui était traversé par un courant réformiste, mais également et surtout par un courant révolutionnaire. Et l'idée de la loi Waldeck-Rousseau, c'était en déléguant la question sociale à travers la prise en charge, notamment de la question de l'indemnisation des chômeurs, c'était d'une certaine façon de les impliquer dans la gestion du marché du travail. Et c'est important d'insister sur cette vision politique de la loi Waldeck-Rousseau parce que, quand vous en viendrez sans doute, d'après ce que j'ai compris, à parler du faible essor des caisses syndicales, il faudra revenir quand même sur cette spécificité du syndicalisme français qui explique une partie aussi de cette affaire.
Alors on va en reparler en effet, mais alors il y a une autre réponse que l'État avait tenté d'apporter au problème du chômage, c'est la création des ateliers nationaux en 1848. L'objectif c'était alors d'offrir des emplois d'utilité publique dans les grandes villes, même si le projet a tourné court, mais c'est une première tentative, Bénédicte Reynaud, de répondre à cette problématique du chômage qui émerge véritablement avec l'industrialisation au 19e siècle.
Oui, tout à fait. C'est une politique de grands travaux. C'est peut-être la première du courant 19e siècle. Et l'État se doit vraiment de venir en aide aux chômeurs. C'est pour ça qu'on a créé les ateliers nationaux.
Et alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, on y reviendra éventuellement plus tard, mais alors, on parlait de cette fièvre de classification. Les statistiques vont jouer un rôle clé, on l'a dit, dans la reconnaissance du chômage. Écoutons l'historien Yves Obermann, qui est auteur d'une histoire du chômage de l'Antiquité à nos jours. Il était au micro de Jean-Noël Jeannonet sur France Culture le 15 septembre 2012.
C'est un travail très rationnel. Je dirais que les statistiques ont été très novatrices dans les recensements. Et je rappelle quand même que les statistiques ont été inventées au milieu du 19e siècle, en 1853, et par un dénommé Cotelet, qui est un Belge, et que ces statistiques ont servi à beaucoup de choses. Et notamment, au tout début des statistiques, elles ont pu séparer les bons et les mauvais chômeurs. Notamment en Angleterre, on s'est alarmé très vite du nombre croissant de chômeurs, et surtout que ces chômeurs puissent se coaliser. Donc on leur a dit, mais vous n'êtes pas tous pareils. Regardez, vous chômez vous parce que vous n'avez pas de travail, mais parmi vous, il y en a qui chôment parce qu'ils ne veulent pas travailler.
On l'entend, les statistiques ont pour objectif de différencier les chômeurs qui méritent d'être aidés de ceux qui ne le méritent pas. Il y a déjà cette idée de mérite qui émerge, Carole Touche-Dirère.
Oui, on la voit. Enfin, moi, dans l'ouvrage que j'ai réalisé, d'ailleurs, avec Christine Daniel, qu'on a oublié de mentionner, qui était mon co-auteur, on la voit apparaître en 1895, quand justement la création du ministère du Travail, qui s'appelle pas ministère du Travail, mais à travers son office du Travail, se livre à un travail de recensement et nous livre une typologie de toutes les formes de chômage possibles, un travail assez minutieux, et qui permet d'isoler la catégorie qui les intéresse, à savoir le chômeur involontairement privé d'emploi en raison de la situation qui prévaut sur le marché du travail.
C'est lié au fait que la société a peut-être du mal à accepter de voir des travailleurs qualifiés qui sont désireux de travailler mais qui ne trouvent pas d'emploi. Ça va prendre du temps avant qu'on accepte cette situation.
Oui, parce que je dirais que dans la panoplie des risques sociaux à couvrir, de toute façon, le risque chômage apparaît comme un risque faible et en tout cas dont il faut démontrer à chaque fois la véracité. Bon, sur la question de la santé, sur la question de la vieillesse, les faits parlent de même, encore que pour la santé, on pourra en discuter. Mais en tout cas, pour le chômeur, oui, il y a toujours l'idée qu'il faut vérifier la bonne foi du chômeur et s'entourer de dispositifs techniques qui visent à contrecarrer l'aléa moral dont peut naître la mise en place d'un mécanisme indemnitaire de protection du chômeur.
Alors, contrairement à la France et à l'Allemagne, la Grande-Bretagne va renoncer à comptabiliser les chômeurs en 1895. Pour quelle raison est-ce qu'elle fait ce choix, Bénédicte Rénaud?
Oui, la Grande-Bretagne ouvre une voie tout à fait originale dans le renoncement à une mesure du chômage en 1895. C'est Hubert Llewellyn Smith qui est le responsable l'office anglais, disons, l'office du travail anglais, qui vraiment pendant une trentaine d'années se refuse à mesurer le chômage pour la raison essentielle, c'est que il a l'esprit, et ensuite il s'associe avec Churchill, il a l'esprit l'indemnisation du chômage, et pour lui on ne peut mesurer le chômage que si on est en mesure de venir en aide aux chômeurs.
Et alors, comment ça se passe concrètement, cette mesure qui
alors,
est en place?
Concrètement, donc en 1888, il y a des caisses des caisses syndicales qui viennent beaucoup mieux organisées qu'en France, qui viennent secourir les chômeurs. Mmh. Et ensuite, ces caisses syndicales servent de base à l'indemnisation du chômage à partir de 1911 en Angleterre.
Alors qu'en France, l'Office du Travail, l'organe chargé des études sur le travail, va définir des catégories de chômeurs en fonction, par exemple, de l'âge et de la durée de suspension du travail.
Oui, il y a tout à fait. Au début, dans le recensement, il y a une période de tâtonnement parce que le statisticien cherche à savoir quel est le bon chiffre du chômage. Il y a un souci vraiment de vérité statistique, disons. Et donc, il a adopté une attitude tout à fait pragmatique, en disant les gens qui ont plus de 65 ans, on va supposer qu'ils ne sont plus au chômage et qu'ils ne sont plus à la recherche d'un emploi parce que ils sont trop âgés. À l'époque, c'était âgé, 65 ans, pour chercher et trouver un emploi.
Et même chose, il faut ne pas avoir travaillé pendant plus de 8 jours.
Oui. Et ça correspondait aux 8 jours que les syndicats demandaient aux syndiqués, donc pour bénéficier d'une allocation.
Et alors l'État, en même temps, cherche à comprendre les causes du chômage, parce que c'est aussi une manière de le définir et, encore une fois, de séparer les véritables chômeurs de la masse des sans-emploi.
Oui, tout à fait. Donc l'État adopte toujours en 1896, il tâtonne toujours dans cette mesure du chômage et il adopte une solution. Il a une autre solution en tête qui est la solution positiviste qui consiste à mesurer le chômage à travers ses causes. Donc on a 3 items, morte saison ordinaire, maladie ou invalidité et manque accidentel d'ouvrage. Donc pour lui, le chômage, c'est un manque accidentel d'ouvrage en principe.
Et ça permet de le définir plus précisément. Et cette distinction entre un chômage volontaire et un chômage forcé, qui est lié à des facteurs économiques, va bientôt apparaître. Bénédicte Reynaud, on va voir vraiment deux visions du chômage qui apparaissent.
Oui, il y a deux visions. Celle défendue par les statisticiens, qui opposent un chômage normal qui s'oppose au chômage accidentel. Et donc ça, c'est une problématique de la norme et de la moyenne. Quelle est la durée de chômage qui devient hors norme, disons. Et il y a un modèle, celui des syndicalistes, lancé par Auguste Queuffert, qui est un syndicaliste ouvrier du livre, et qui a un rôle tout à fait important dans l'intervention de l'État.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il est considéré comme volontaire le chômage qui résulte d'un manque d'éducation ou de toute autre qualité jugée nécessaire à l'occupation d'un emploi. C'est une définition particulière du chômage volontaire quand même.
Tout à fait, parce qu'on considérait que lorsqu'on entrait dans une profession, il fallait avoir les qualités nécessaires pour exercer cette profession et tout chômage qui dépendait de ce manque de qualité était tout à fait normal.
Sur cette distinction, Carole Tugirer, entre chômage volontaire et chômage involontaire.
Oui, on distingue selon le fait que le chômage relève de l'état de l'individu ou relève de l'état du marché du travail. Alors, un manque de formation professionnelle, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il incombe aux acteurs publics d'y remédier et que c'est un problème qui est lié au fonctionnement ou au dysfonctionnement du marché du travail. Mais à l'époque, en tout cas, on considère effectivement que la formation professionnelle, l'éducation relève de la sphère individuelle et que la responsabilité des pouvoirs publics dans cette affaire n'est pas de mise. Bon, on est aussi, il y a un courant de pensée un peu libéral durant cette période-là qui explique aussi et largement l'orientation des politiques économiques et les choix qui sont faits en matière de couverture des risques sociaux.
Et l'enjeu de la reconnaissance du statut de chômeur, c'est qu'il donne droit à l'assistance. Alors, qui est-ce qui peut bénéficier des caisses de secours des syndicats professionnels? Est-ce que ça permet de couvrir un large spectre de chômeurs, Bénédicte Reynaud?
Non,
vous allez me répondre que non.
Non, les syndicats sont pas très nombreux quand même par rapport à ce qui se fait, ce qui se développe en Grande-Bretagne. Ils sont relativement modestes.
Carole Tugirer.
Oui, c'est-à-dire que les caisses syndicales qui sont organisées sur la base de métiers regroupent et qui supposent de verser une cotisation tous les mois sont organisées sur une base ouvrière mais regroupent essentiellement des ouvriers qualifiés. Donc le choix que fait l'État à un moment donné de subventionner ces caisses syndicales-là pour indemniser les chômeurs, c'est un choix qui revenait de toute façon à privilégier les ouvriers déjà qualifiés et qui avaient un salaire suffisamment élevé pour pouvoir s'acquitter de cette cotisation. Donc forcément, on indemnisait des 1000 et des 100.
Et puis vous le disiez, il y avait peut-être un choix à faire entre d'un côté l'assistance et de l'autre l'organisation de la résistance au patronat. Et évidemment, les ressources étaient limitées.
Oui, ça c'est ce qui explique fondamentalement le fait aussi que les caisses syndicales se soient peu développées en France. On en revient à la raison idéologique que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que demander aux organisations syndicales pour recevoir la subvention de l'État de classifier les chômeurs revenait à leur demander, comme vous le disiez tout à l'heure, de classer les bons et les mauvais chômeurs. Donc c'était pas forcément une opération qu'elles souhaitaient faire.
Bénédicte Reynaud,
il y a juste un chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est qu'un tiers des chômeurs secourus appartiennent à la Fédération du Livre. Donc oui. C'est très significatif d'un syndicalisme qui est puissant, mais dans la Fédération du Livre, quelques métiers qui sont peut-être privilégiés.
Et alors, dans cette période, les questions sociales commencent à peser dans le débat politique sous la Troisième République. On va assister alors à de nombreux débats parlementaires autour de la question du chômage. Il y a beaucoup de députés qui s'engagent sur ces questions, comme Édouard Vaillant, Jean Jaurès, Bénédicte Reynaud.
Oui, tout à fait. Donc, à la fin du 19e, c'est... dans tous les pays d'Europe, c'est une grande convergence de discussions et de débats parlementaires. Il y a des débats en Grande-Bretagne très importants et des commissions qui sont créées. C'est la même chose en France.
Des débats peut-être sur le fait que la technologie est pointée du doigt en tant que responsable d'un mal qu'on considère au début comme, enfin qu'on commence à considérer comme inévitable, Carole Touvier-Tirard.
Oui, c'est la révolution industrielle, on commence déjà à parler des ravages que peut causer le machinisme et de cette substitution capital-travail qui ne nous lâchera pas. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte économique tout à fait propice dans le cadre de l'avènement de la Troisième République, qui voit quand même émerger des figures réformatrices et assez progressistes. Et donc beaucoup de députés vont proposer des lois qui ne seront pas suivi des faits, ça c'est sûr, puisque le régime naît en 1958, mais qui contribue quand même à poser les jalons d'un point de vue conceptuel de ce que doit être un système d'assurance chômage.
Oui, on commence à parler d'une assurance obligatoire, mais alors quel en est le principe, mais surtout quelle résistance est-ce qu'on lui oppose alors ?
Oui, pas toutes les propositions de loi vont jusqu'à proposer un régime de mettre en place un système obligatoire d'assurance chômage, mais celle qui va le plus loin, je pense que c'est celle d'Édouard Vaillant, effectivement, qui va vraiment très très loin dans l'édification d'une société d'assurance sociale qui doit couvrir tous les risques, y compris ceux qui étaient pris en charge par les institutions de bienfaisance et qui relevaient de l'assistance. Mais se pose bien sûr déjà, si je puis dire très vite, la question de qui paye, quoi.
La question du financement est déjà quelque chose qui bloque.
Voilà. Et Vaillant s'oppose même très durement à Jaurès. Alors, pas vraiment dans le champ de l'assurance chômage, mais c'est dans le champ des retraites, mais c'est intéressant. Vaillant, lui, il estime qu'il ne faut pas imposer une cotisation ouvrière au financement de l'assurance chômage, puisque finalement les salariés seraient victimes deux fois de la perte d'emploi, puis du financement de l'indemnisation auquel cette perte d'emploi donne lieu. Donc lui, il s'y oppose ouvertement. Et Jaurès, lui dit que si vraiment on veut instaurer un droit inconditionnel, irréversible, il faut instaurer un principe de la cotisation ouvrière, parce que quand on paye, on décide, et quand on ne paye plus, on est soumis à des aléas politiques qui peuvent exposer à la suspension de ce droit.
Bénédicte Reynaud.
Oui, pour revenir sur la question de la l'émergence de cette catégorie de chômeurs, il faut insister sur l'idée que le chômage est une construction sociale, ce qui ne veut pas dire que c'est arbitraire. C'est ça qui est important à retenir. C'est que c'est une construction sociale au sens où c'est la confrontation de différents modèles, et j'y pense à propos des parlementaires. Il y a d'un côté le modèle de l'État, avec ses multiples ramifications, et puis une confrontation avec les modèles des statisticiens et celui des déclarants.
Alors, plusieurs modèles qui s'opposent, et on va voir qu'à partir de 1905, alors pour avoir un ordre d'idée, il y a alors 230 000 personnes qui sont sans emploi en France. L'État va commencer à financer directement les caisses ouvrières, et ça, c'est un système qui va perdurer assez longtemps, Bénédicte Reynaud.
Oui, jusque dans les années 30, à peu près.
Et ce qu'on constate, c'est que peu de caisses font de la demande des subventions, peut-être parce que les conditions sont trop strictes, les conditions pour accéder à ces subventions.
Il faut dépendre d'une ville de plus de 10 000 habitants, donc ça concentre les aides au chômage aux villes de taille relativement importante.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, Carole Touvier-Tirard, c'est que ceux qui bénéficient vraiment de ces subventions, c'est essentiellement les ouvriers de métiers syndiqués. Voilà, c'est donc un système qui est relativement excluant.
Oui, il est tout à fait excluant, puisqu'il repose sur un... Encore une fois, il y a ce principe de la cotisation salariale. Il faut avoir adhéré à la caisse pendant un certain temps, même avant de pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. Hein, puisque, comme je vous le disais également, les organisations ouvrières craignaient que les demandes d'allocation soient trop fortes et mettent en péril l'existence même du syndicat. Donc, effectivement, il faut avoir été membre de l'organisation syndicale depuis un certain temps. Il faut s'acquitter d'une cotisation qui, même si elle est faible au regard des salaires versés à l'époque, l'est davantage. Et pour cette masse de salariés, on dirait aujourd'hui intermittents, mais qui ne relève pas encore du salariat, on n'est pas dans le salariat, pas pris les proportions qu'on connaît aujourd'hui, il ne présente pas, bien évidemment, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la protection de ces caisses syndicales.
Vous parliez tout à l'heure des communes de plus de 10 000 habitants qui pouvaient distribuer des allocations. Alors justement, on va voir dans cet extrait du chômeur de Clochemerle, un film de 1957 réalisé par Jean Boyer, que justement la commune n'est pas assez conséquente.
Je voudrais voir Monsieur Piéchu.
Mais vous savez bien que notre sénateur-maire n'est jamais là en semaine. Il réside à Paris.
Ben alors, vous allez m'inscrire.
Comme quoi vous inscrire?
Comme chômeur.
Comme chômeur? Mais à quel titre?
Mais au titre que je n'ai pas le travail et que j'ai droit à l'indemnité du malheur.
Mais qu'est-ce que vous racontez? D'abord, nous n'avons pas de fonds de chômage à Clochemerle.
Vous n'avez pas de fonds de chômage? Eh bien, c'est honteux que la commune, ayant un sénateur de gauche à sa tête, soit un pays si rétrograde. On se fout du peuple, voilà.
On ne demande qu'à vous aider. Hein. La commune va vous procurer du travail.
Du travail?
Quel est donc le genre de travail qui vous plairait?
J'aimerais un emploi d'inspecteur pour surveiller le travail des autres et ne pas commencer trop tôt le matin.
Mais cette situation ne correspond pas du tout à ce que vous êtes dans la vie.
Alors je dois renoncer à m'élever. Non, c'est bon, je mets au chômage. Inscrivez-moi.
On se fout du peuple, vous avez peut-être reconnu la voix de Fernandel. En tout cas, ces allocations qui sont distribuées par les communes, est-ce qu'elles proviennent de ce fonds national de chômage qui est créé en 1914? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le déclenchement de la Première Guerre mondiale va révéler les limites du système d'assurance chômage subventionné.
Oui, tout à fait. La Première Guerre mondiale voit apparaître 2 millions de chômeurs du fait de la guerre. Parce que pas mal d'établissements sont fermés, les hommes étant mobilisés pour la guerre.
Et c'est à ce moment-là que ce Fonds national de chômage
est créé en 1914.
L'objectif, c'est d'empêcher l'oisiveté des travailleurs dont l'activité a été suspendue par la guerre. On voit toujours que cette notion d'oisiveté perdure. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, ce fonds national, il va être maintenu parce qu'on passe d'un chômage... Alors même, on passe d'un chômage de guerre à un chômage de crise.
Oui, ce fonds de chômage devait être exceptionnel. Il a été créé avec cette idée qu'il devait rester exceptionnel. Et en fait, après la guerre, il perdure.
C'est l'idée que, finalement, on prend conscience que le chômage devient structurel.
Probablement, un chômage structurel. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit que le chômage, c'est une confrontation entre les modèles des déclarants, ceux qui répondent aux questionnaires qui sont sans emploi, et le modèle de l'État.
En tout cas, cette l'obtention de ces aides semble s'apparenter au parcours du combattant. Le chômeur doit notamment répondre à un questionnaire afin de savoir si il sera éligible ou non aux droits. Carole Tuchy-Tireur, il y a beaucoup d'étapes dans cette accession aux droits.
Vous parlez des fonds locaux qui ont été instituées en 1914. Oui, il y a un critère. Alors c'est ça qui est très curieux, si vous voulez, parce que ce système est qualifié d'un système dit d'assistance, alors qu'en définitive, il pose des conditions qui font très largement penser au régime d'assurance qui sévit dans les caisses syndicales. C'est-à-dire qu'il y a des conditions d'activité préalables. Il faut avoir travaillé même peut-être plus longtemps que dans les caisses syndicales pour pouvoir s'autoriser à disposer d'un droit. Donc en fait, on se rend compte assez vite que certes, il y a peut-être deux circuits parallèles pour obtenir une indemnisation, mais que souvent c'est le même demandeur d'emploi. Il n'y a rien qui le distingue dans sa définition du régime instauré par les communautés, du régime instauré par les caisses syndicales, si ce n'est que les fonds locaux de chômage introduisent un critère supplémentaire qui est le critère de la résidence. Et ça crée des inégalités très fortes de fait, parce que quand vous avez une entreprise qui est située avec des salariés qui y travaillent et ces salariés sont embauchés dans la même entreprise mais vivent sur des localités différentes, une fois mis au chômage, vous avez des salariés qui vont être indemnisés dans le cadre de la commune parce que la commune a instauré un fonds, et puis le salarié qui présente exactement le même profil, lui, ne sera pas indemnisé parce que la commune aura décidé de ne pas installer ce fonds. Donc on voit bien que ces systèmes qui sont mis en place, un peu de briquet de broc, finalement, parviennent à des situations qui sont très fortes fortement inégalitaire du point de vue du statut du chômeur.
Des systèmes qui vont être unifiés à partir de 1958, qui constituent la véritable rupture. On va en parler dans un instant.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps.
Tu dors trop.
Il faisait. Je renonçais au travail, toujours plus seul j'étais. La 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 la.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Le Travail de Dominique A. et Françoise Breut et nous continuons à parler de la conquête du droit au chômage avec Bénédicte Reynaud et Carole Touche-Zireur. Et c'est à nouveau une crise, celle des années 30, qui va révéler les failles du système. On se rend compte que les fonds municipaux sont finalement surexploités parce qu'il y a de nouvelles catégories de population à ce moment-là qui arrivent parmi les rangs des chômeurs, Bénédicte Reynaud.
Oui, il y a une nouvelle population de chômeurs qui arrive. C'est-à-dire que il faut se rappeler que le chômage, c'est une suspension de travail dans l'établissement. Et donc, c'est de l'emploi salarié masculin qui est au chômage.
Sauf qu'avec la crise des années 30, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a d'autres travailleurs qui sont concernés et qui ne correspondent pas à la définition que vous venez d'en donner.
Oui, c'est possible qu'il y ait d'autres travailleurs, ceux dont le travail est plus ou moins... Il y a les travailleurs à domicile qui ne sont pas considérés comme chômeurs, les isolés qui ne sont pas considérés comme chômeurs.
Donc c'est par exemple les marins, les dockers, les artisans.
Marins, dockers, artisans, ouvriers du textile qui étaient très importants. On revient un petit peu en arrière pendant la guerre de 14, à cause de l'industrie du vêtement, l'armement et la guerre.
Et donc la crise des années 30 révèle les failles de ce système et quelle va être la réponse qui va être apportée, Carole Touche-Zireur, à ce moment-là?
Il y a deux réponses qui vont être apportées. La première, c'est en ce qui concerne la subvention accordée aux fonds locaux de chômage. Bah, on va ouvrir les critères qui permettent de venir en aide à ces nouvelles catégories, hein, alors qu'on imposait avant effectivement, de par l'existence d'une période d'activité salariale préalable, on accepte finalement des gens dont on ne peut pas contrôler la quantité de travail qu'ils ont fourni, par définition les travailleurs indépendants. les travaux à domicile, les dockers, les marins. Ça, c'est la première réponse qui est donnée, c'est d'ouvrir le régime à ces nouvelles catégories-là. Et on voit bien que ça fait aussi, y compris écho à l'actualité du moment où la question de la prise en charge par l'UNEDIC du travail indépendant est posée de nouveau. Et l'autre réponse a consisté, du fait de cette crise, à recourir à une troisième institution, puisque je rappelle qu'on a les caisses syndicales sur une base ouvrière, les fonds locaux de chômage sur une base territoriale. Et tout ça ne suffit pas à endiguer le chômage de masse de l'époque. Et on va donc recourir à une bonne vieille institution qui relève de l'assistance, que sont les bureaux de bienfaisance. Bureaux de bienfaisance accordaient leur aide aux pauvres, mais n'avaient pas du tout vocation à venir au secours des chômeurs. Et donc là, on va demander à ces bureaux de bienfaisance, on va leur accorder la possibilité d'une subvention pour venir en aide aux pauvres demandeurs d'emploi. Mais là encore, ça obligera les bureaux de bienfaisance à distinguer parmi les pauvres ceux dont l'état de pauvreté ne relève pas de leur état professionnel, mais est né de la situation qui leur a été faite sur le marché du travail.
Bénédicte Reynaud.
Oui, les bureaux de bienfaisance, il y en a une quarantaine à la fin du 19e. Et la manière qu'ils ont de détecter s'il s'agit d'un véritable chômeur est de leur donner du travail à faire.
Ça leur permet de prouver
qu'ils sont des véritables chômeurs et distingués des vagabonds ou mendiants qui circulaient à l'époque.
Et dans ce contexte, qu'est-ce que va changer l'arrivée du Front populaire au pouvoir le 3 mai 1936 ? Est-ce que l'indemnisation chômage va devenir un des leviers d'action plutôt de la politique de l'emploi ? Carole Touche-Direr.
Étonnamment, on pourrait se dire, puisque c'est l'arrivée d'un gouvernement de gauche avec Léon Blum à sa tête, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit l'occasion finalement de reposer la question d'une loi et de l'instauration d'un système d'assurance chômage obligatoire. Et finalement, ça correspondra pas aux orientations de la période qui sont plus consacrées à l'amélioration du sort des salariés, à leur pouvoir d'achat, à leurs conditions de travail, à l'instauration de congés payés, à l'instauration de la possibilité de négocier des accords d'entreprise, des accords collectifs dans l'entreprise. Donc plutôt un système législatif qui est tourné vers l'emploi et vers l'entreprise et qui, en matière d'assurance et d'assistance chômage, ne va faire que prolonger finalement les acquis des périodes antérieures.
Alors c'est un premier rendez-vous manqué, il y en a peut-être un second, c'est l'institution de la sécurité sociale en 1945 qui constitue une immense avancée, mais l'indemnisation chômage, elle, est exclue de ce système, Carole Touche-Direr.
Oui, on a des occasions manquées en matière d'assurance chômage. L'histoire française en est jalotée depuis le 19e siècle jusqu'en 1958. Donc en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on passe à côté d'une possibilité. Mais c'est vrai qu'étonnamment, l'instauration d'un système de sécurité sociale qui couvre les risques qu'on connaît aujourd'hui ne couvrira pas le risque chômage.
Il faut dire qu'il y a très peu de chômeurs à l'époque.
Alors voilà, il faut dire que mais il y a toujours des bonnes raisons.
On manque plutôt de main d'œuvre à l'époque.
Oui, mais enfin il y a toujours une bonne raison finalement de repousser l'idée des systèmes obligatoires contre le chômage. Mais c'est vrai que là on est en période de reconstruction, on est en période de mobilisation de la main d'œuvre, on tend vers le plein emploi et on voit pas pourquoi on irait s'embarrasser de la prise en charge d'un risque coûteux dans une situation qui n'exige pas. Il y avait y compris aussi un facteur plus idéologique, c'est que les caisses étaient plus ou moins dominées par la CGT et que finalement, on n'était pas forcément favorable à l'idée de confier l'assurance chômage à une organisation sociale dont la CGT était bien représentée.
Mais le droit au chômage est quand même inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Bénédicte Reynaud, vous vouliez réagir ?
Oui, sur l'occasion manquée en France, c'est à noter, et en particulier par rapport à la Grande-Bretagne qui, avec le plan Beveridge de 1941, s'était doté déjà d'une assurance chômage depuis 1916, puis la loi 1920 et au premier lieu la loi 1911 pour quelques secteurs, mais c'est une généralisation complète et un système un système d'assurance chômage pour tous.
Alors qu'en France, il va falloir attendre 1958 pour voir apparaître la première assurance chômage obligatoire. C'est l'une des bonnes nouvelles annoncées par le général de Gaulle le 28 décembre 1958, lors de sa première allocution, une semaine après son élection à la présidence de la République.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti sera accru en conséquence. Dès le 1er janvier, les vieilles gens verront leur retraite majorée de 5200 francs. J'ajoute que va être fondé, institué, par coopération entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum.
Un fonds national destiné au maintien de l'emploi. Voilà ce que nous dit le général de Gaulle. Alors en quoi est-ce qu'il s'agit d'une rupture avec les politiques d'assistance qui étaient menées jusqu'ici, Carole Tugirer?
Oui, c'est une bonne question, d'autant que la formule est particulièrement alambiquée. Hein. C'est vraiment, dans la formule du général de Gaulle, on est quand même bien loin des principes de l'assurance sociale. Un fonds national pour accorder un supplément qui permet d'atteindre le SMIC, on est quand même loin d'une assurance chômage contre le chômage. Je n'aurais même pas fait spontanément le lien entre ça et la création de l'INEDIC, si vous me l'aviez dit. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le général de Gaulle a poussé à la création d'un système d'assurance chômage, précédé quand même par des négociations entre le CNPF et FO pour qu'il en soit ainsi. Je dirais que la position de l'État renforce une idée qui est quand même dans l'air du temps, qui est qu'il faut en finir avec ce système un peu compliqué et se doter d'un régime d'assurance chômage. L'Angleterre l'a déjà fait, l'Allemagne l'a déjà fait, la France rentre dans le marché commun et voilà, on ferait figure de misérable à continuer de fonctionner sur des régimes bricolés depuis 1905 ou 1914.
Et dans un premier temps, ça marche très bien. On est au plein milieu des 30 glorieuses et l'UNEDIC et la CEDIC qui sont créées donc à ce moment-là disposent de larges ressources financières.
Oui, oui, ça marche très bien, ça marche même peut-être trop bien pour certains. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les premières années d'instauration de l'UNEDIC, il y a bel et bien l'idée de pas seulement indemniser les demandeurs de emploi, je pense que c'est important d'insister sur cette idée-là, mais il y a l'idée que l'indemnisation du chômage, c'est un levier pour favoriser la recomposition de l'économie française dans un contexte de division internationale du travail, dans un contexte d'intégration de la France au marché commun, qui va y avoir des secteurs industriels vacillants, qui va falloir entraîner des jeunes et des moins jeunes vers des secteurs porteurs, et que l'indemnisation du chômage, justement, peut être le moyen de rendre supportable cette période de transition entre deux emplois. Donc, c'est pas seulement indemniser pour indemniser, ce serait déjà largement justifié, mais c'est aussi l'idée que si on veut se doter d'une politique de l'emploi efficace au service de la restructuration de l'économie française, il faut pouvoir assurer aux salariés menacés de ces restructurations un revenu de remplacement qui leur permette d'assumer cette phase de transition.
Et là encore, le régime va s'étendre à de nouvelles catégories de chômeurs. On voit que ça procède par petites touches, par extension progressive.
Oui, et surtout que le principe de base à un système d'assurance sociale qui est la cotisation préalable, hein, on perçoit des indemnités de chômage parce qu'on a cotisé préalablement, va être levé même par la création de l'UNEDIC, pour favoriser la prise en charge de jeunes, pour favoriser la transition de l'agriculture vers l'industrie en acceptant d'indemniser des ouvriers agricoles qui n'avaient pas préalablement cotisé au régime et qui vont donc pouvoir toucher des prestations de chômage sans cotisation préalable pour les orienter vers le secteur des secteurs porteurs. Donc c'est important vraiment dans le cas français d'avoir en tête cette idée que l'indemnisation du chômage est un instrument de régulation du marché du travail.
Alors en tout cas, c'est une période qui se caractérise par un grand interventionnisme étatique sur le marché du travail. Ce fonds national pour l'emploi dont parlait le général de Gaulle, en réalité, il a été créé en 1963 pour favoriser la mobilité professionnelle. Mais c'était voilà pour entendre le général de Gaulle annoncer un certain nombre de mesures, même si voilà, c'est en 1958 oui. que cette assurance intervient.
Oui, et je rappelle que cette assurance ne porte pas le nom d'assurance en 1958, puisqu'il s'agit d'instaurer un régime national nationale interprofessionnelle d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie du commerce. Donc, vous voyez bien que le terme de, d'assurance n'est pas évoqué, alors que c'est un terme qu'on connaît très bien dans les débats, puisque c'est depuis la fin du 19e siècle que rituellement la question de l'assurance chômage est posée. Donc on sait ce que c'est, et le fait de ne pas le mentionner dans le régime qui est créé en 58 veut dire que, bien que c'est ce qu'on a tort sans le dire, on reste encore assez frileux sur cette question assurantielle.
Et ce qu'on constate aussi, Carole Tuzirer, c'est que le regard sur les chômeurs change à cette période, et notamment peut-être grâce au rapport Ortoli qui va donner naissance à la NPE à la fin des années 60. Le chômage est analysé dans ce rapport comme un phénomène involontaire qui est lié aux restructurations industrielles.
Oui, le rapport Ortoli, donc, qui est réalisé par un chargé de mission du commissariat au plan, lequel commissariat au plan est dirigé par un certain Jacques Delors, sous un secrétariat d'État au ministre du Travail qui s'appelle Jacques Chirac. Voilà, on est quand même dans un contexte même idéologique, hein, même si on voit bien que ce contexte idéologique recouvre des gens d'obédience politique assez diverses, mais en tout cas tous convaincus qu'il faut se doter d'un service public de l'emploi digne de ce nom. Et le rapport Ortoli va très très loin dans cette configuration, puisque il va jusqu'à prôner la création d'un établissement qui ressemble à la NPE, mais qui aurait en plus en charge les questions de formation professionnelle, qui pourrait être un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Et puis il insiste surtout beaucoup sur le fait que, on l'a pas dit précédemment, hein, c'est que malgré la création de l'UNEDIC en 58, l'aide publique perdure. En 67, quand Ortoli rédige son rapport,
Les deux systèmes sont complémentaires.
Exactement. Mmh. Et l'assurance et l'UNEDIC, si vous voulez, fait figure d'assurance complémentaire par rapport à un régime public qui n'a pas disparu depuis qu'il a été créé en 1914. Donc on est encore sous deux régimes distincts de couverture du risque chômage, malgré la création de l'UNEDIC en 58.
Et l'État cherche alors à s'éloigner peut-être de cette logique de l'assistance. C'est la solidarité qui est mise en avant, comme on peut l'entendre dans ce discours de Raymond Barre, qui est alors Premier ministre. C'était en 1977 à l'Assemblée.
Cette politique doit être menée dans un esprit de solidarité nationale qui doit s'exprimer à l'égard des hommes et des femmes qui ne trouvent pas d'emploi, à l'égard des Français dont les conditions de vie sont le plus durement touchées par les difficultés économiques. Redressement et solidarité, voilà les deux axes fondamentaux de la politique du gouvernement au cours des mois à venir.
Voilà cette notion de solidarité qui prime. L'objectif pour l'État, c'est aussi d'éviter des conflits sociaux liés au licenciement massif qui se multiplie alors, Carole Tuzirer.
Oui. Alors, à l'époque, les moins jeunes s'en souviennent d'ailleurs, on parlait d'un traitement social du chômage. Et c'était l'idée que, quelque part, les restructurations industrielles étaient un peu inévitables et qu'il fallait les rendre les plus douces possibles. Et c'est comme ça que, par exemple, l'UNEDIC va participer activement à financer le retrait du marché du travail des personnes âgées, entre guillemets, qui, dès qu'elles seraient licenciées dès 55 ans, se verraient, auraient la possibilité de pouvoir bénéficier d'une protection indemnitaire par l'UNEDIC jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre l'âge de la retraite.
Et la réforme de 1979 va aller dans le même sens ? Qu'est-ce que cette réforme va apporter ?
Alors, à l'époque où on a écrit ce livre avec Christine Daniel, on estimait que la période qui s'ouvre en 79, elle est ambiguë. Mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails de cette ambiguïté. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que depuis la création de l'UNEDIC, de 1958 à 1979, oui, on assiste bel et bien à une extension des droits à indemnisation des demandeurs d'emploi en direction des salariés âgés, en direction des salariés licenciés économiques, en direction y compris de salariés âgés qui souhaiteraient démissionner, en direction des jeunes, en direction des rapatriés d'Algérie, par exemple. En 63, l'UNEDIC va participer à la délivrance d'allocations chômage à des rapatriés d'Algérie, qui n'ont bien évidemment jamais cotisé un centime au régime en vigueur.
Et l'UNEDIC fait ces prestations pour des raisons désormais attribuées sans tenir compte des
sans
ressources
de contributivité.
Et sans cotisation. Voilà.
Sans principe de contributivité, ce qui est à la base d'un régime d'assurance chômage. Donc quand on entend Raymond Barre parler de solidarité, oui, on peut le dire, puisqu'en tout cas, pour les salariés agricoles, pour les jeunes, il y a bien l'idée de favoriser les mutations de l'appareil productif, mais pour les rapatriés d'Algérie et les gestionnaires de l'UNEDIC le disent, ils le font à des buts purement et simplement humanitaires.
Mmh. Mais à partir des années 80 ou de la fin des années 70, le fait que la croissance et la productivité ralentissent de concert, ça va entraîner un retournement, un recul des droits à l'indemnisation ?
Bah, ce recul, il va démarrer début des années 80, hein, avec y compris une réorientation de la politique économique, hein, ça tout le monde s'en souvient, plutôt réorientée vers l'offre des entreprises, plutôt d'obédience, on va dire libérale. Et toute la vision qui avait été portée par le rapport Ortoli, par Jacques Delors, à l'époque de Jacques Chirac, qui lui-même avait créé, hein, l'autorisation administrative de licenciement, donc une période très protectrice, hein, du point de vue des chômeurs, va se trouver très largement remise en cause à partir du... C'est le tournant de la rigueur, en gros, hein, des années 82. C'est aussi le développement d'un chômage important. Mmh. On commence à parler du déficit de l'UNEDIC et on va un peu recentrer la vision haute qu'on avait sur des enjeux et des visions du marché du travail sur des aspects beaucoup plus budgétaires, beaucoup plus techniques, beaucoup plus paramétriques, beaucoup plus technocratiques.
Et on dit que l'essor du chômage est lié au coût du travail. Le coût, oui, du travail est pointé du doigt à ce moment-là.
Oui, le coût du travail et puis l'idée qu'on serait aussi en présence d'un régime indemnitaire trop généreux et que ce salaire de réserve interdirait la flexibilité des salaires qui serait la seule à pouvoir assurer le plein emploi de l'économie française. Bon, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, parce que je rappelle quand même quelques chiffres. C'est que un demandeur d'emploi aujourd'hui n'est pas indemnisé par le système d'assurance chômage, et que le niveau moyen de l'allocation qui est versée tourne autour de 2000 euros, voire même un peu moins. Donc la générosité du système peut être questionnée de ce simple point de vue.
Alors justement, vous parlez d'aujourd'hui, le gouvernement cherche à réformer l'assurance chômage. Les négociations entre le patronat et les syndicats ont repris la semaine dernière. Et selon l'exécutif, le système actuel d'indemnisation du chômage est un frein au retour à l'emploi. C'est la rhétorique que l'on entend beaucoup. Et l'objectif, c'est donc de mettre un coup d'arrêt, en particulier à ce dispositif d'activité réduite qui permet de cumuler revenus d'activité et allocation chômage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Carole Tuchgirard ? Est-ce que ça va dans le sens d'un creusement des inégalités entre les chômeurs ?
De la façon dont vous le dites, et vous avez raison de le faire, il y a déjà une contradiction dans les faits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, d'un côté, que le système d'assurance chômage est trop généreux et qu'il interdit les demandeurs d'emploi de reprendre un emploi qui préfère rester chômeur, et de l'autre côté, constater qu'il y a une dérive des activités réduites, précisément un système qui permet à un demandeur d'emploi indemnisé de pouvoir occuper une activité occasionnelle et de cumuler ainsi un bout de salaire avec un bout d'indemnisation. Donc voilà.
Alors la réponse du gouvernement, c'est qu'en contrepartie, il cherche à réguler davantage les contrats courts. On sait que 80% des CDD durent moins d'un mois, et donc évidemment, ça menace l'équilibre financier de l'assurance chômage. C'est en tout cas le discours qui est porté. Pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts, ça semble aller quand même dans le bon sens, Carole Tuchgirard.
Oui, enfin. On verra, parce que ça fait des années et des années, hein, que cette affaire-là est dans le débat, la création d'un bonus-malus, puisque le patronat s'y oppose de longue date. On verra si ce système-là verra le jour cette fois-ci.
Les négociations doivent durer jusqu'au 22 février. Le gouvernement a dit que s'il n'y avait pas d'accord
il trancherait. Oui. Donc je pense que c'est effectivement une bonne chose qu'il le fasse, mais il le fait y compris, il faut pas se voiler la face, mais c'est pas très grave, il le fait y compris parce que ces activités réduites coûtent très cher au régime. Donc il y a une dimension,
c'est d'abord pour des raisons budgétaires.
Bon, il y a des raisons budgétaires, mais tant mieux si à cette occasion-là, en tout cas, on tente de moraliser le marché du travail par des activités réduites mieux contrôlées.
Et ce que l'on entend parfois dans le discours qui peut être porté aujourd'hui sur les bons et les mauvais chômeurs peut rappeler peut-être ce qu'on a dit en début de cette émission sur le 19e siècle. On a des échos comme cela du 19e siècle, selon vous, Carole Tuchgirard ?
Bon, on a des échos, si vous voulez, que vous dire, mais quand on a un décret qui est pris entre Noël et Jour de l'An pour durcir les conditions d'indemnisation et renforcer le contrôle qui est fait aux demandeurs d'emploi dans un contexte de chômage massif, on serait en période de plein emploi qu'à la limite on pourrait le comprendre, prouve qu'on n'est pas complètement sorti encore de cette vision contestée de la figure du chômeur.
C'est l'heure de retrouver les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que la Chambre des communes britanniques doit se prononcer aujourd'hui sur l'accord de sortie de l'Union européenne, vous avez choisi de revenir sur la situation paradoxale de l'emploi outre-Manche.
Mais oui, avant le vote de ce soir à la Chambre des communes, il était intéressant de s'interroger sur les liens qui peuvent exister entre un marché du travail largement libéralisé, flexibilisé et la sortie programmée du Royaume de l'Union européenne. La Première ministre Theresa May doit en effet soumettre au vote du Parlement britannique l'accord conclu avec Bruxelles, accord qui n'a que peu de chances d'être adopté puisqu'il est critiqué à la fois par les partisans du Brexit et par ses opposants qui espèrent encore éviter une sortie britannique de l'Union. Theresa May elle-même ayant prévenu qu'en cas de rejet du plan, le Royaume-Uni pourrait avoir à renoncer au Brexit. Si l'on peut s'interroger sur la validité des conclusions tirées par Madame May, qui ressemble en réalité plus à une mise sous pression de sa majorité qu'à une projection objective, il est indéniable que le Royaume-Uni se trouve dans une situation inédite et hautement instable.
Une instabilité politique qui pourrait se répercuter sur l'économie britannique.
Oui, il semblerait ainsi que depuis l'annonce des résultats du référendum, pas un jour ne passe sans qu'une étude, un rapport vienne démontrer les conséquences potentiellement désastreuses d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE et a fortiori d'une sortie sans accord. La Banque d'Angleterre s'est ainsi essayée à cet exercice de divination économique en livrant à la fin de l'année dernière un rapport dans lequel elle prévoit un effondrement de 25% de la livre sterling, une baisse de 10% du PIB britannique et une hausse du chômage de 7,5%. Une hausse du chômage qui tomberait au plus mauvais moment alors que le gouvernement britannique faisait de cette baisse historique du nombre de demandeurs d'emploi un argument en faveur de sa politique. Avec force, tambours et trompettes, la Première ministre a ainsi salué la baisse historique du taux de chômage atteignant les 4% au mois d'août dernier, une première depuis près d'un demi-siècle.
Mais derrière ces brillantes statistiques, il faut aussi s'interroger sur la qualité des emplois créés et la réalité de la situation économique en Grande-Bretagne.
Oui, car comme le rappelle un article de Libération, cette baisse du chômage s'est accompagnée d'un resserrement des salaires, d'une hausse de l'inflation et d'une explosion du nombre de travailleurs pauvres en Grande-Bretagne. Il faut dire que cette baisse du taux de chômage est largement due à une multiplication des emplois précaires, petits boulots et autres jobs indépendants. Ces derniers ont explosé au Royaume-Uni depuis une dizaine d'années grâce à la libéralisation et la flexibilisation toujours plus importante du marché du travail, sur le même principe que les réformes Hartz-Schröder menées en Allemagne au début des années 2000.
On a ainsi vu se développer les fameux contrats zéro heure.
Oui, ceux-ci ont même été multipliés par 5 depuis 2010 et concernerait en 2018 près d'un million de travailleurs outre-Manche. Des contrats qui ont la particularité de n'offrir aucune garantie aux salariés en matière d'heures travaillées. En clair, l'employeur n'a pas à indiquer de minimum horaire. Le salarié travaillera quand on aura besoin de lui, et gare à ce dernier s'il n'est pas disponible à tout instant pour répondre présent. On se rappelle ainsi des images d'ouvriers au 19e siècle se levant au point du jour pour tenter d'obtenir une journée de travail à l'usine, de ces fermiers mis en concurrence pour obtenir le droit d'exploiter la terre. Eh bien, il s'agit ici de la même logique. Difficile donc, au moment où le Royaume-Uni affronte l'une des pires crises de son histoire, de ne pas s'interroger sur les origines profondes de cette instabilité, car il est frappant de voir les dirigeants britanniques se féliciter de leurs résultats en matière de lutte contre le chômage, sans s'interroger sur les conséquences en matière de précarisation et de fragilisation des travailleurs. Frappant de ne pas faire le lien entre 30 ans de politique néolibérale et la décision des Britanniques de quitter l'UE, symbole le plus manifeste de ces politiques. Frappant enfin de voir les dirigeants britanniques déplorer les conséquences dont ils chérissent par ailleurs les causes.
Every Monday morning I'm standing in a line to sign an application, 'cause I ain't got a dime. I wait and I wait and I wait and I wait. It's 12 o'clock and I've been here since 8. I ain't got no money and my rent is due, and I got a hole in the bottom of my shoe. I say, have you, will you, won't you give me a job? 'Cause I'm tired of hanging on a corner with the mob. She looked in the files and she found my card. I
say it, I'll take anything if it ain't.
On se quitte sur Unemployment de The Moon Glows. Merci beaucoup Bénédicte Reynaud et Carole Touche-Girer d'avoir retracé avec nous cette histoire du chômage en France depuis la fin du 19e siècle. On se retrouve demain pour une émission consacrée cette fois à l'expérience du chômage. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.